Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Alain et Patrick, en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Anian. Et évidemment, comme cette saison, eh bien, on vous souhaite une bonne année à tous et à toutes, hein, puisque c'est la première émission de cette nouvelle année 2025. Bonjour Patrick.
Bonjour Alain.
Alors, ce mois-ci, eh bien, on va parler de deux choses, hein, deux sujets. Un premier qui va être lié à la manière dont on observe le ciel, avec quels instruments. Et puis un deuxième sujet où on passera en revue justement ce qu'on pourra voir avec ces instruments, mais tout au long de l'année 2025.
Alors, je suppose qu'il y a des belles choses en perspective.
Oui, aussi, oui, oui.
Bon, alors, moi, je vais commencer en me disant qu'il y a certainement quelques personnes qui ont eu pour Noël, sous le sapin, des instruments d'observation. Alors, peut-être d'observation autre que le ciel, hein, terrestre, parce que c'est possible. D'ailleurs, souvent, les objets peuvent servir aux deux. Donc, je vais essayer de vous donner juste quelques petits conseils pour vraiment débuter. Voilà, savoir qu'est-ce qu'on a entre les mains et éviter que ça reste au placard. Alors, déjà, il faut déterminer, quand vous ouvrez l'emballage, de savoir si on vous a offert un télescope ou une lunette.
Oui, effectivement.
Il faut faire la différence.
Alors, nous, en français, on fait la différence.
Voilà, hein. Je sais que les anglo-saxons ne le font pas. Ils appellent tous les instruments télescopes, mais je crois qu'on en avait déjà parlé de ça. Donc, on va aller aux choses plus concrètes. Donc, pour faire vite et simple, un télescope, vous avez un miroir au fond. D'accord ? Donc, vous regardez, vous ouvrez le bouchon, vous regardez au fond. Si vous voyez, c'est un télescope. Une lunette, vous avez une lentille qui est à l'ouverture. D'accord. Donc, en général, un télescope, souvent les télescopes de débutants, vous observez au devant du tube. Ça paraît bizarre. C'est pas toujours logique comme ça au premier abord. Et quand on a affaire à une lunette, on va plutôt observer derrière. Alors, je dis télescope de débutant parce qu'il y a quand même certaines formules optiques où, effectivement, on observe aussi derrière avec des télescopes. Mais bon, là, c'est quand même des instruments en général un petit peu plus haut de gamme. Donc, déjà déterminer si vous avez ce genre d'instrument ou pas. Alors, vous allez me dire, hein, ça permet de voir le ciel quand même, mais il y a des petites choses techniques auxquelles il faut tenir compte, c'est notamment le nettoyage. Parce que une lunette, vous pouvez le nettoyer avec des... Il faut être très, très délicat, mais avec des lingettes, hein, optiques, on peut l'envisager sur du matériel un peu bas de gamme, mais un télescope, jamais, jamais, vous allez vous amuser à aller frotter. Alors, c'est difficile d'accès déjà, heureusement, mais le premier conseil, c'est de ne jamais frotter un miroir de télescope parce que c'est extrêmement fragile.
Oui, d'ailleurs, les astronomes disent souvent que moins on nettoie le miroir et mieux c'est.
Hein. Et mieux on voit, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Alors, voilà, donc un premier point. La grosse différence aussi entre le télescope et la lunette, c'est que le télescope aura besoin d'être réglé. Donc, on appelle ça la collimation, nous, mais être réglé plus souvent qu'une lunette. Une lunette, en général, ça ne bouge pas. Alors qu'un télescope, le miroir, vu qu'il ne doit pas être contraint, il tient sur trois points. Et ces trois vis, en fait, demandent un réglage. Alors, évidemment, toujours pareil, hein, sur un télescope un peu bas de gamme, ça ne se décollimate pas très vite et même ça a une certaine tolérance. Si vous avez des instruments un peu plus performants, que vous bougez beaucoup, effectivement, il faudra envisager de ne pas oublier de faire ce réglage.
Oui, alors je vais quand même donner un petit détail aussi. Alors, sur certains télescopes, hein, notamment maintenant ceux qui se plient.
Rétractables.
Ouais. Voilà, pour le coup, là, c'est pratiquement obligatoire de le faire à chaque installation. Et c'est vrai que sur les petits télescopes, on va dire d'entrée de gamme, alors ce qu'il faut faire souvent, c'est le vérifier une fois qu'on reçoit l'instrument. C'est vrai que sur certains, c'est quand même assez bien collimaté. Sur d'autres marques, notamment celles qui font des voyages au long cours.
Oui, puis ça dépend si vous les rangez avec ou sans élan aussi.
Voilà, ça peut se décollimater.
Ouais. Ouais, tout à fait. Ensuite, deuxième chose à regarder, c'est le type de monture que vous allez avoir. Alors ça, c'est très important parce que sur du matériel astronomique, je dirais d'entrée de gamme, la monture, c'est vraiment quelque chose qui peut être un obstacle pour faire de belles observations. Donc, je pense notamment à la stabilité. Alors, évidemment, il y a deux types de montures, on va dire. Les montures dites équatoriales et les montures dites altazimutales. Alors, en général, les montures équatoriales est sur un trépied, mais il y a des montures altazimutales qui peuvent l'être aussi, hein, puisque la monture altazimutale, c'est le trépied photo aussi.
Tout à fait.
Mais souvent, quand on a affaire à une monture altazimutale sur un télescope, on parlera d'une monture de type Dobson. Mm. Voilà. Alors, dans l'entrée de gamme, je souhaite qu'on vous a offert un Dobson. Parce que ce sont des montures qui sont quand même beaucoup plus rudimentaires, mais du coup, beaucoup, beaucoup plus stables et beaucoup plus faciles à utiliser. Voilà. En gros, on sort son télescope, on le pose et ça fonctionne, en gros. Hein, ça marche assez rapidement. La monture équatoriale sur trépied, ben, si c'est assez costaud, ça va, mais ça demande un réglage, ça demande une mise en station. Alors que, et puis, alors si vous avez une monture qui est un peu juste, ben, vous allez avoir des problèmes de stabilité, de vibration. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, puisque le principe d'un instrument d'observation en astronomie, c'est de grossir. On va voir d'ailleurs qu'il ne faut pas forcément grossir le plus possible, mais on grossit de toute façon. Et ben, quand on grossit tout, y compris les défauts, donc y compris aussi les vibrations. Donc, maintenant, première chose, vous avez votre télescope ou votre lunette, vous allez vouloir pointer quelque chose. Alors, je vous conseille de ne pas attendre le soir pour le faire. Le premier réglage, pour moi, qui est important, c'est de régler le chercheur. Parce que si le chercheur n'est pas bien réglé, ben, on cherche, mais on ne trouve pas.
Oui, donc en fait, comme dit le fameux proverbe, hein, un chercheur qui cherche, c'est bien, mais un chercheur qui trouve, c'est mieux.
C'est mieux, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, on vous conseille, dans un premier temps, de monter votre télescope ou votre lunette le jour. Alors, pas le matin, hein, parce que voilà, vous avez peut-être autre chose à faire, mais juste avant la tombée de la nuit. Parce que comme ça, vous pourrez le régler sur l'horizon, en cherchant au loin un repère. Alors, un repère, ça peut être un pylône, ça peut être un château d'eau, ça peut être un clocher d'église, mais il faut que ça soit suffisamment loin sur l'horizon. Et du coup, l'avantage de faire ça, c'est que ben, le ciel, comme la Terre tourne, l'étoile, si vous prenez du temps, elle va bouger. Donc, en gros, ça va être une course perdue d'avance. Alors que si vous faites ça sur l'horizon, ça ne bouge pas et vous avez tout le temps de régler votre chercheur. Donc, vous mettez l'oculaire qui grossit le moins sur votre télescope. Vous pointez donc avec votre télescope l'objet sur l'horizon. Et quand vous l'avez, vous stabilisez bien l'ensemble et vous réglez à ce moment-là le chercheur sur l'objet que vous avez choisi.
Oui, et je précise, c'est dans ce sens-là et surtout pas dans l'autre.
Et oui, parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, il faut faire dans le sens inverse. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, bah, du coup, vous attendez la nuit. Et là, vous êtes prêt pour pouvoir pointer quelque chose. Parce que si le chercheur n'est pas bien réglé, vous pouvez pointer ce que vous voulez au chercheur. Bah, ça va tomber à côté.
Oui, voilà. Alors la Lune, on finit toujours par tomber dessus.
Oui, voilà.
Mais si Saturne ou Jupiter, si elles sont brillantes, hein, comme c'est des quand même assez brillantes, on finit aussi par tomber dessus.
Oui, mais ça commence à devenir déjà plus délicat.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Mais par contre, effectivement, si après vous voulez chercher soit des planètes déjà plus subtiles ou même des objets du ciel profond...
qu'on ne voit pas facilement à l'œil. Voilà.
Clairement, vous allez galérer une bonne partie de la nuit.
Exactement. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça... L'utilisation des oculaires. Alors, première règle hein, pour moi qui est essentielle, en général un télescope c'est livré avec deux oculaires, un 20, 25 et un 10 normalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce nombre qui est écrit, hein, ce chiffre écrit sur les oculaires, en fait c'est la longueur focale de l'oculaire. D'accord? Vous avez une longueur focale de votre instrument et ça vous permettra de déterminer le grossissement. Alors le calcul il est simple, hein, vous prenez la focale de votre instrument, c'est écrit sur le tube. Et vous le divisez par la focale de l'oculaire. Par exemple, si vous avez un télescope qui fait 1000 mm de focale et que vous avez un oculaire qui fait 10 mm de focale, ben vous divisez 1000 par 10 pardon, et ça vous fait un grossissement de 100 fois. D'accord ? Ce qui est déjà beaucoup. Donc, je vous conseille, quand on débute, d'utiliser l'oculaire qui aura le plus grand nombre. Donc, du coup, en divisant par la focale de l'instrument, vous aurez le grossissement le plus faible. Alors, pourquoi? Ben parce que quand on débute, on a du mal à se repérer et à trouver les objets dans le ciel. Donc, on a intérêt à avoir le plus grand champ possible dans le télescope. Donc, du coup, on utilise le grossissement qui est le moins fort. Et après, avec l'habitude, et selon les objets qu'on observe, vous pourrez vous risquer à utiliser des grossissements plus importants.
Oui, alors je vais rajouter, il y a beaucoup d'instruments d'ailleurs d'entrée de gamme qui sont rajoutés avec des barreaux.
Oui.
Alors là, je pense que la meilleure utilisation que vous pouvez en faire, c'est bloc-porte. Hein.
Oui. Oui, ou filtre à café, si vous n'êtes pas pressé.
Voilà, parce que là, c'est vraiment le genre d'accessoire qui est strictement inutile
sur
des instruments d'entrée de gamme.
Ben oui, des barreaux 3X qui donnent des grossissements résultant de 300 fois sur des instruments d'entrée de gamme, c'est totalement ridicule.
Voilà. Donc... C'était la petite parenthèse. Précision.
Alors, des choses importantes aussi, si vous voulez faire des observations dans de bonnes conditions, ben, et si vous habitez en ville, évidemment, il faut vous en éloigner. Parce que l'ennemi numéro 2 de l'astronome observateur, après les nuages, évidemment, c'est la pollution lumineuse. Donc, si vous observez la Lune, c'est pas grave. Depuis votre balcon, même en ville, ça se fait. Planète aussi. Mais dès que vous voulez sortir de là, observer des amas d'étoiles, des nébuleuses, il faut impérativement s'éloigner des lumières artificielles et même des lumières naturelles, parce que s'il y a trop de lune, ça ne marche pas très bien non plus. Voilà. Donc, vous éloignez le plus possible de là où vous habitez si vous n'êtes pas à la campagne. Ensuite, les premiers essais, ça se fera sur la Lune, évidemment, je pense, parce que ça reste quand même l'objet du ciel le plus facile d'accès. Donc, et c'est très sympa d'observer la Lune, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on peut se dire qu'on est blasé à force de l'observer, mais il y a beaucoup de très belles observations à faire, surtout avec les phases, de jour en jour, on découvre sur la limite jour-nuit plein de cratères, de formations, des jeux d'ombre. C'est très, très sympathique comme observation à faire. Éviter peut-être la pleine Lune, sauf pour s'entraîner, mais c'est vrai que la pleine Lune, ce n'est pas l'idéal parce que trop lumineuse. Donc, pour débuter, ce n'est pas forcément le mieux. Voilà, et puis un autre paramètre à prendre en compte, parce que moi ça m'est arrivé en fait, c'est ce qu'on appelle la turbulence. Moi, le premier télescope que j'ai utilisé, alors hormis que j'avais oublié d'enlever le bouchon la première fois, parce que sur les télescopes type Newton, on a deux bouchons en fait, on a le bouchon principal et puis un petit bouchon au milieu. D'ailleurs, ce petit bouchon au milieu, j'ai jamais vraiment compris à quoi il sert.
Justement, observer la Lune.
Voilà, mais comme il est situé... j'ai vu que maintenant, il l'avait décalé, mais moi, sur le mien, à l'époque, il était situé au niveau du miroir secondaire. Donc, je me suis dit, on ne doit pas voir grand-chose quand même quand on enlève que ça. C'est ce que j'ai fait la première fois. J'ai enlevé que ce petit bouchon. J'étais là, je me suis dit, quand même, c'est pas bien lumineux ce que j'observe. Et c'est bien plus tard. Alors, il y a longtemps, j'ai fait des progrès depuis. On m'avait dit, non, mais il faut enlever tout le bouchon à l'ouverture. Il ne faut pas avoir peur de la poussière. Il faut que toute la lumière rentre dans le tube. C'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Mais bon, quand on ne sait pas, quand on débute, on fait des erreurs.
Oui, mais j'ai fait la même erreur aussi.
Tu as fait la même erreur aussi, oui. D'accord, oui. Bon, alors... Tout ça pour dire que la première fois que j'ai pointé mon télescope, je n'ai pas choisi la bonne cible. J'ai vu un truc brillant sur l'horizon, c'était Vénus. Sur le moment, je ne savais peut-être même pas que c'était Vénus. Je me suis dit, on va observer un truc brillant. J'ai pointé mon télescope dessus, j'ai vu un espèce de truc patatoïde, lumineux, effectivement, mais qui bougeait dans tous les sens. Je me suis dit, mon télescope, c'est de l'arnaque, il ne marche pas, il est cassé, ou je ne sais pas ce qu'il y a, je le fous au placard et on verra plus tard. Et évidemment, plus tard, je me suis rendu compte que ce jour-là, il y avait un peu de vent. Il y avait de la tramontane, donc c'était un ciel très turbulent. L'objet que j'avais observé était très bas sur l'horizon, donc totalement dans les zones de turbulence. C'était impossible, même avec un super télescope, d'avoir une belle image. Donc vous voyez, il faut quand même faire attention à ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se dire, je sors mon télescope, même sur la Lune, s'il y a beaucoup de turbulence, l'image est totalement brouillée. Ça bouge, c'est un peu l'effet mirage, comme dans les westerns américains, quand... À la fin, le héros, il s'en va sur l'horizon, il y a tout qui bouge, le soleil qui se déforme, et voilà. Ben, on a le même effet sur le ciel en grossissant. Donc, il faut choisir le bon jour où il y a de la turbulence. Alors, comment faire? Un guide qui est rapide, c'est déjà d'observer le scintillement des étoiles. Si vous avez les étoiles qui scintillent sur l'horizon, jusque-là, c'est normal. Mais si vous avez les étoiles au zénith qui scintillent aussi, là, vous pouvez vous dire que ça ne sera pas super, ça ne sera pas une bonne soirée d'observation. Alors pourquoi? Parce que les étoiles scintillent à cause de l'atmosphère. S'il n'y avait pas d'atmosphère, les étoiles ne scintilleraient pas. Alors évidemment, les étoiles qui sont au zénith, elles vont traverser l'atmosphère à la verticale. Donc la quantité d'atmosphère qu'il y a, d'accord? Mais quand c'est sur l'horizon, comme l'objet est plus bas, puisque la Terre est ronde a priori, vous avez l'objet qui va traverser toujours une même couche d'atmosphère, mais en biais. Donc du coup, beaucoup plus d'atmosphère et beaucoup plus de turbulence. Donc déjà, ça sert de guide. Et puis surtout, essayer d'observer des objets le plus haut possible dans le ciel.
Voilà, dès que c'est relativement...
Alors on dit qu'en gros, 20 degrés, c'est vraiment un minimum. 20 degrés au-dessus de l'horizon. Alors 20 degrés au-dessus de l'horizon, ça représente, je crois, la main tendue. Du pouce au petit doigt.
Vous écartez la main, les doigts de la main au maximum, vous posez le pouce sur l'horizon.
Oui.
Et votre petit doigt, c'est à peu près 20 degrés.
Voilà, à peu près 20 degrés, mais il y a des cas de figure où il faut aller bien, bien plus haut. Et même des fois, il vaut mieux pas sortir. Vraiment, s'il y a beaucoup de vent, beaucoup de tramontane, vous pouvez rester chez vous.
Oui, alors je dirais, même s'il y a beaucoup de vent, c'est simplement que...
Ça va vibrer
ça
partout.
Va vibrer, ça va faire vibrer votre instrument, donc en dehors de la turbulence, ça va...
Ça risque de ne pas être terrible. Donc voilà déjà pas mal de petits conseils. Alors du coup, tu vas pouvoir toi nous dire un petit peu ce qu'on va pouvoir observer tout au long de l'année.
Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous écoutez bien l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel présenté par Alain et Patrick en partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Aniane. Nous venons pas de parler des instruments d'observation, notamment télescopes, lunettes et comment les utiliser de manière rudimentaire. D'ailleurs, on en reparlera, mais on pourra aussi vous aider plus concrètement là-dessus. Et on va bientôt maintenant passer à ce qu'on peut observer dans le ciel avec ces instruments pendant tout au long de l'année.
Oui.
Alors déjà, premièrement, c'est, il y a beaucoup d'événements qui sont quand même assez spectaculaires à observer. Et parmi ces événements, il y a les éclipses, et notamment les éclipses de soleil. Eh bien, cette année, il n'y en aura pas. Alors, il n'y aura pas d'éclipse totale de soleil cette année.
C'est pas une bonne année alors, on va dire.
Mais par contre, on aura des éclipses partielles de soleil, notamment le 29 mars. Et cette éclipse partielle de soleil sera visible en France. Et on aura 20% du soleil environ qui sera masqué par notre seul satellite naturel, la Lune. Et si vous ratez le coche, vous aurez une séance de rattrapage le 21 septembre. Ce sera aussi une éclipse partielle de soleil. Elle sera aussi visible en France. Mais il faudra quand même voyager un petit peu puisque ce sera en Polynésie pour le coup. Mmh. Et il n'y aura que 8% du soleil qui sera masqué par la Lune à Papette. Mmh. Donc voilà. Alors par contre, je le répète et oui, on en reparlera, mais les éclipses de soleil et l'observation du soleil, c'est la seule observation qui peut être réellement dangereuse et mortelle pour vos yeux. Donc si on ne sait pas comment observer le soleil, c'est très simple, on s'abstient.
Voilà.
Ou alors on se renseigne auprès, par exemple, de l'observatoire ou de n'importe quel club d'astronomie. Ils vous donneront la manière d'observer en toute sécurité le soleil. Mais voilà, je répète, ça c'est vraiment important, les éclipses de soleil ou le soleil tout court.
Oui.
C'est la seule observation qui peut être dangereuse. Oui. Pour les yeux.
Oui, il faut savoir le faire, il faut utiliser des filtres bien spécifiques. J'entends, hélas, nombreuses personnes qui disent « oui, mais masque de soudeur, ça marche bien ». Bon,
c'est... Alors, je dirais que le masque de soudeur...
Il vaut mieux ça que rien, mais ça reste risqué.
Voilà, ouais. C'est pas le pire.
Non. Les couvertures de survie aussi, j'ai
voilà,
entendu.
Voilà, alors, j'allais dire les couvertures de survie, À l'époque, on avait des radios sous forme de films ou de pellicules, tout ça, on bannit...
Non, il faut vraiment se rapprocher auprès de professionnels pour...
Voilà, et si vraiment vous avez vraiment envie d'observer coûte que coûte, dans ce cas-là, vous courez dans votre cuisine, vous cherchez une passoire, vous pointez la passoire vers le soleil, vous regardez de l'autre côté de la passoire vers le sol et vous verrez autant de soleil qu'il y a de trous dans la passoire.
Ah oui, c'est les fameuses sténopées, c'est
voilà.
Ça. Oui, tout à fait. Oui.
Et ça sera la seule manière d'observer le soleil de manière
Alors,
sûre.
Après, il faut quand même dire que les observations du soleil sont vraiment superbes. Il ne faut pas s'en priver. Il faut juste prendre les précautions qu'il faut, mais il ne faut pas non plus avoir peur et bannir l'observation du soleil, parce que ça reste quelque chose d'assez fascinant. Mais voilà, avec beaucoup de précautions.
Voilà, on parlait des éclipses de soleil, on va parler maintenant des éclipses de lune. Alors, les éclipses de lune, il y en aura deux cette année. La première, ce sera le 14 mars, ce sera une éclipse totale de lune. En France hexagonale, on verra l'entrée dans l'ombre de la Terre. Mais on ne verra pas le phénomène en totalité puisque l'éclipse est centrée sur le continent nord-américain. Par contre, les Antillais et les Guyanais pourront voir le phénomène en totalité, c'est-à-dire l'entrée dans la pénombre, l'entrée dans l'ombre, la sortie, etc.
La fameuse lune rousse, voilà.
Voilà, donc le phénomène, nous en France hexagonale, ne sera que visible qu'en partie. Et le 7 septembre, ce sera une éclipse totale de lune. Alors là, c'est l'inverse. Depuis la France hexagonale, on ne verra que la sortie de l'ombre, puisque la lune va se lever éclipsée. Mmh. Et on ne verra en fait que la sortie de l'ombre. Mais la totalité sera aussi observable en France. Mais là, ce sera depuis l'île de la Réunion, puisque cette éclipse-là sera plutôt centrée sur l'océan Indien. Donc voilà en ce qui concerne les éclipses. Je vais parler du soleil hein, de manière plus générale. Alors, vous l'avez entendu, notamment en 2024, hein, il y a eu de superbes aurores boréales au mois de mai, au mois d'octobre. Et l'année a bien commencé, puisque le 1er janvier, il y a eu aussi de superbes aurores boréales. Donc on est vraiment dans une phase où le soleil est dans une activité intense. Alors le maximum est toujours prévu hein, à peu près sur, on va dire, les premiers trimestres, voire le second, hein, au niveau de la mi-année, hein, au niveau de l'été. On arrive au premier pic, et sur tous les précédents pics hein, qui se sont produits, il y a eu deux pics. Un premier, puis un léger recul et un deuxième pic. Et ça a toujours été le deuxième pic qui a été le plus intense.
Donc ça promet.
Donc là, on va dire, en tout cas pour 2025 et même 2026, où il devrait y avoir le second pic, eh bien, on va avoir un soleil absolument...
Généreux et actif.
Généreux et actif. Et donc, il faut être à l'écoute. Hein, et notamment, voilà, les phénomènes d'aurore boréale, on en aura encore cette année. Et on en aura encore l'année prochaine, très probablement.
Voilà, alors toujours pareil, hein, faut s'éloigner des lumières hein, pour avoir une chance de les observer.
Oui, mais j'ai été étonné, par exemple, celle du mois d'octobre, j'étais à 10 km de Montpellier et on les voyait super bien à l'œil nu. Hein,
donc, parce que c'était au nord sûrement et dégagé.
C'était au nord et dégagé.
Alors ça aussi, hein, regardez plutôt vers le nord, hein.
Voilà, oui,
tant qu'à faire.
Tout à fait. Mais voilà, faut pas, surtout, ne vous dites pas oh, « je suis en ville, je verrai rien ». Bah, sortez, vous n'avez pas besoin de faire des centaines de kilomètres. Moi, j'ai fait une... je vous dis, hein, j'étais à une dizaine de kilomètres de Montpellier. Donc voilà, il ne faut pas s'en priver. Hein.
En fait, il faut éviter d'avoir le champ de lumière dans ce qu'on regarde, en fait, voilà, hein, vers là où ça. On vise. Donc voilà.
Il arrive aussi que la Lune occulte, on l'a dit, le Soleil, mais pas que.
Et oui.
Elle peut aussi occulter les planètes, notamment. Alors, l'année 2024 a été ultra généreuse, hein, puisqu'on a eu, je crois, 27 occultations de planètes, hein, de l'une ou l'autre des planètes par la Lune. Il n'y en aura que 10 cette année. Et à l'exception d'Uranus et de Jupiter, elles seront toutes éclipsées par la Lune, mais pas forcément visibles depuis la France. Alors depuis la France, il n'y a qu'une occultation qui était visible depuis la France hexagonale. C'était Saturne hein, au début du mois de janvier, le 3 janvier ou 4 janvier, je crois. Et la deuxième occultation, ce sera peut-être l'occultation de Vénus le 19 septembre. Ce sera visible en Europe et en France hexagonale. Bon, par contre, les conditions seront quand même assez compliquées. Donc, c'est pas que c'est impossible, mais voilà, ça ne va quand même pas être les meilleures conditions.
Alors, comme ça reste brillant, la Lune et Vénus, donc j'imagine que quand tu dis que c'est compliqué, c'est que ça sera, il ne fera pas nuit.
Ouais, et puis je crois que ce sera bas
très
sur l'horizon.
Très bas
ouais.
Sur l'horizon, donc ouais.
Voilà, donc ça sera... alors, je ne suis pas sûr, je me demande si ce n'est pas en plein jour, d'ailleurs. J'ai un doute, là.
Oui, mais ça reste visible quand même,
oui,
ça
oui,
qui est intéressant.
Visible,
avec
oui.
Des jumelles,
voilà, c'est ça.
Avec des jumelles, ça peut être sympa à faire.
Donc, voilà pour les, on va dire, les phénomènes, hein, notamment lunaires et au niveau de ce qu'on pouvait en dire. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, donc Mars hein, va être occulté 4 fois par la Lune. Mais là, ça ne sera pas visible hein, depuis la France. Et pour ce qui est, comment dire, de Neptune, là encore, ça sera pas observable tout court. Et Mercure, pareil, c'est pas visible depuis la France. Sinon, eh bien, vous avez peut-être entendu parler en 2024, il y a eu énormément de comètes. Hein. Alors énormément, il y en a eu plusieurs, hein, on va dire. Cette année, eh bien, il n'y en aura pas. Enfin, pas vraiment de notables, hein, comme on
sauf
a pu...
Sauf une surprise.
Voilà, sauf
jamais.
Une surprise. Ouais. Alors éventuellement, il y a peut-être ces 2023-24 G3 Atlas qui sera visible dans l'hémisphère sud ce mois-ci. Actuellement, sa magnitude actuelle, hein, là, vraiment, tout début janvier, était de magnitude 2. Sa magnitude pourrait être estimée à moins 4, voire moins 10, hein, s'il y a un sursaut d'activité. Et elle pourrait être visible à l'œil nu en pleine journée, à 5 degrés du soleil. Mais là, voilà, plutôt réservé à l'hémisphère sud. En France, hein, elle sera qu'à 2 ou 3 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, bon, c'est quasi infaisable. Et parmi les pluies d'étoiles filantes, eh bien, vous avez les états aquarides hein, qui auront lieu début mai. Il y aura une très grosse lune, donc ça ne sera pas des conditions idéales. Les perséides, hein, les fameuses perséides de la mi-août, avec le maximum le 13, là aussi, il y aura une très grosse lune. Et même s'il y a 60 étoiles filantes par heure hein, sur ces dernières années, ça ne sera pas un très très bon cru cette année. Et puis, il y a les draconides hein, au mois d'octobre. Normalement, c'est quasi nul. En termes d'étoiles filantes, mais il peut y avoir de spectaculaires sursauts, comme en 2011 où il y a eu 300 étoiles filantes par heure, et donc ça peut être des belles surprises. Bah, pour l'instant, en tout cas pour 2025, pas de sursaut prévu.
Et pour l'hiver, là, il n'y a pas d'essaim prévu.
Alors les orionides, auront lieu à la fin octobre. Et donc là encore, c'est un essaim assez variable, avec une vingtaine d'étoiles filantes par heure. Par contre, il n'y aura pas d'année de lune hein, cette année en 2025, donc ça sera plutôt à surveiller. Et les deux essaims d'étoiles filantes hein, les plus intenses, ce sont les Géminides à la mi-décembre, hein, donc aux alentours du 14 décembre. En 2025, donc en décembre 2025, on aura un premier quartier. Donc, ça sera plutôt un très bon cru. La lune sera couchée. Et c'est l'un des plus intenses de l'année, puisqu'il y en a environ 200 par heure. Et vous avez les quadrantides hein, qui ont lieu tout début janvier. Hein, c'était juste après le réveillon.
Ah oui, mais on avait les yeux troublés.
Voilà. Et donc, les essaims d'étoiles filantes et ceux qui étaient,
remarquables.
Les plus facilement visibles. Alors, on va parler un petit peu de ce qu'on voit maintenant, surtout ce mois-ci. Alors, notamment côté planète, on a une très, très belle période d'observation planétaire, puisqu'on a eu Mercure, hein, qui a été visible à la fin de l'année et tout début du mois de janvier. Elle sera de nouveau hein, très, très facilement observable en Europe hexagonale à la fin du mois de février. Vénus hein, s'observe superbement hein, côté ouest, on ne peut pas la rater. Mars et Jupiter sont aussi superbes hein, quasiment toute la nuit. Saturne est visible en toute première partie de nuit, mais dépêchez-vous parce que là, on vit les derniers instants de Saturne. Et même si elles ne sont pas visibles à l'œil nu, vous avez également Uranus et Neptune. Et vous avez peut-être déjà entendu parler que le 18 janvier, il y a un alignement planétaire, ou alors peut-être le 21, ou même le 25, hein, ça dépend des médias que vous avez consultés. Alors, il n'y a pas d'alignement planétaire en tant que tel, c'est surtout qu'on est dans une très belle période d'observation planétaire. C'est valable sur la fin janvier, comme c'était valable début janvier, ou même sur le mois de décembre. Mais c'est vrai que là, sur cette fin janvier, eh bien, en fait, entre Mars et Saturne, hein, qui est la dernière planète à se coucher, qui va être la planète à se coucher le plus tôt, eh bien, on peut les voir tout en même temps dans le ciel.
En théorie, on pourrait dire que les planètes sont relativement toujours alignées, puisqu'elles circulent dans le zodiaque.
Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, puisqu'on parle de planétaire, vous avez le rapprochement entre Vénus et Saturne hein, qui s'est joué là ces derniers jours et qui reste une belle manière de dire au revoir à Saturne. Le 23 janvier, pour ceux qui ont vraiment des instruments, alors là plutôt avec une grande focale, tentez quand même de voir le passage de l'ombre de Titan sur Saturne. C'est assez difficile.
Oui, là, ça devient pointu. Là.
Mais voilà, pour ceux qui ont... C'est la seule fois de l'année hein, où ce sera possible. Mm-hmm. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis le 1er février, moi, je vous propose de ne pas attendre qu'il fasse nuit pour faire des observations. Après tout, pourquoi pas. Pas forcément non plus de regarder le soleil. On vous a dit que c'était dangereux. Mais tout simplement d'observer la conjonction Lune-Vénus. Vous pouvez le faire en début de soirée ou même en pleine journée.
Surtout que ça, c'est à l'œil nu quasiment. Hein.
Oui, voilà. Oui, alors, Vénus en pleine journée, il vaut mieux avoir des jumelles quand même pour la repérer.
Ouais, pour la repérer.
Mais là, justement, avec la Lune à côté, c'est très simple à faire. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Merci à toutes les auditrices et bien sûr à tous les auditeurs. On se retrouvera le lundi 17 février de l'année 2025. Et nous vous souhaitons
Bonne année à tous.
De nouveau une belle année, de belles observations. Et voilà. Puis, Patrick, je te laisse le mot de la fin.
De très beaux projets et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Je prends pas de risque.